Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, amoureux des drosophiles, transis du pissenlit, amants et amantes de la vie et du bouton en devenir. Bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse. Vous écoutez le magazine de la rédaction et vous avez bien raison. Nous allons parler aujourd'hui de ce qu'il faut d'amour pour protéger et préserver et de ce qu'il faut de collectif pour faciliter l'action. Samedi dernier, en Sud-Ardèche, a eu lieu l'assemblée constitutive du collectif des réserves de nature, un collectif qui réunit des propriétaires volontaires, des exploitants de terrain, des naturalistes et des habitants qui souhaitent constituer un réseau de parcelles en faveur de la biodiversité dans le Sud-Ardèche et le nord du Gard. Ces démarches s'inscrivent complètement dans l'esprit de l'article 2 de la Charte de l'environnement qui, je le rappelle, a été adossé à la Constitution depuis mars 2005. Je cite « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ». Nos trois invités font partie de ce collectif. Cassie Textier, propriétaire, bonjour.
Bonjour.
Simon Contant, naturaliste et botaniste, bonjour.
Bonjour.
Et Jean-François Holthoff, qui est habitant de l'Ermitage Saint-Eugène, pardon, dans les bois de Paillolive, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour à tous les trois et merci d'être là. Nous allons parler de tout cela dans un instant, mais avant, quelques infos agenda avec Marie. Bonjour Marie, qui est là.
Salut Sophie.
Puisque c'est mardi. Et j'en profite aussi pour dire bonjour à Sylvain, derrière la vitre.
Bonjour à tous.
À la réalisation de cette émission. À toi Marie.
Ok. Ce soir, session trad au bar La Casita à Aubenas, donc comme une fois par mois. Rendez-vous à 20h pour les musiciens de musique traditionnelle, celle que l'on danse, qu'on appelle aussi le folk, pour jouer, chanter, taper du pied, partager ce riche répertoire de musique et chansons régionales. Toute région, donc ce soir à 20h au bar La Casita, c'est 10 rue Béranger de la Tour à Aubenas.
Merci.
Ce soir aussi, cinéma à Tueil, salle Vesprade à 20h30. Past Lives, nos vies d'avant, un film américain de Céline Song. Nora et Ae Song, deux amies d'enfance profondément liées, sont séparées après que la famille Nora ait émigré en Corée du Sud. Des décennies plus tard, elles sont réunies pour une semaine fatidique alors qu'ils affrontent le destin, l'amour et les choix que font une vie. C'est en version originale sous-titrée.
Past Lives.
20h30.
Pardon, je te donne...
Je te laisse. 20h30, salle Vesprade à Tueil.
Voilà. Et c'est un film dont on a parlé avec beaucoup d'enthousiasme à Cinémascope, l'émission de cinéma de vendredi, du vendredi midi sur Fréquence 7.
Ouais, vraiment ça, un film, c'est une référence.
C'est la référence. Je veux dire. Laissez tomber le masque et la plume. Oh, écoutez ouais. Cinémascope le vendredi à midi 10 ou à 17h10 sur Fréquence 7.
Ouais, même si ça s'empoigne pas trop. Mais,
mais oui, mais quelquefois, ouais. À raison, il faut se demander pourquoi on ne s'empoigne pas. Peut-être parce qu'il y a moins d'enjeux de clash ici à la radio. On est différents, décalés, pas pareil. On ne fait pas du show,
yes.
Pas forcément.
Je passe.
Je t'en prie.
Alors, des petites infos de la Bibli, les lunes. Mardi, tout à l'heure, comme c'est l'Assemblée Générale de la Fougue, à 18h au Palabre, au Benin, elles font une petite permanence. Mmh. Et puis demain... de 17h à 19h au pas de côté à Mercué. Pour demain, c'est réaction à la loi immigration, envie de lire des extraits de livres autour de la question des coloniales. Et voilà, pour venez tous nombreux et nombreuses, mmh. Nombreuses et nombreux.
Bibli les lunes, oui, on en a parlé hier, mais c'est vrai que c'est très important. Enfin, c'est une bibliothèque itinérante que les gens ne connaissent pas encore sur les questions de sexisme, notamment de féminisme et des luttes aussi, notamment les actuelles. Actuelles et décoloniales. Et des extraits de pas mal de bouquins très très intéressants seront lus demain, donc au pas de côté de 17h à 19h à Mercué.
Et on reste au pas de côté. Et c'est pour jeudi soir à 20h. Et c'est la soirée Fingerstyle.
Mais qu'est-ce donc ?
Rendez-vous autour des gratteux, les gratteux de la guitare. Uh-huh. Et autour de compos ou reprises, tout le monde est le bienvenu, à condition qu'il y ait une guitare sur scène. Entrée libre. il faut être adhérent, soit au pas de côté, soit à Fingerstyle.
Voilà. Ça c'est jeudi donc.
Jeudi, ouais, 20h. Un autre café associatif à Prades, la petite bulle. Mercredi 15h, c'est un petit moment goûter autour des crêpes.
Ah bah tiens.
À tout petit prix. Mmh. Vendredi 15h, atelier partagé, crochet, tricot et autres. Mmh. Et vendredi à 18h, donc ça c'était 15h, à 18h c'est l'assemblée générale de Déambule. Et le moment de parler toutes les activités, dont le café asso.
Intéressant, oui. Toujours très intéressant. Donc, Assemblée Générale, vendredi 18h à Prades. C'est ça,
c'est
pour
ça.
Le café associatif, la petite bulle.
Et les autres activités de l'association Déambule. Mmh. Dernière info, c'est pour vendredi soir à Viviers, au théâtre municipal à 21h. Hasna El Bacharia, et c'est la musique Gnawa. La première femme à jouer du gambri et qui donc c'est du rock rock électrique du désert tout ça plein d'influences et de créations et de reprises traditionnelles aussi mais de là-bas du désert et voilà 6 à 18 euros ça fait un grand écart mais c'est pré-vente ou vente et tarif adulte et jeune.
Donc ça, c'est à Viviers, au Théâtre de Viviers, vendredi
à
19h. Eh bien, merci beaucoup, Marie, pour ces infos. On poursuit en musique avant de parler de notre sujet du jour.
J'aimerais, dame nature, courir nu dans mes chaussures, tout en matière plastique pour prolonger le corps et l'âme. J'aimerais, comme un saumon, remonter le cours des rivières dans ma belle combinaison pour sauver toute la planète. J'aimerais être généreux, mais que ça coûte pas trop cher. Dame nature, acheter une voiture toute en matière plastique pour prolonger le corps et l'âme. Record vitesse sur la terre pour sauver de la misère tous les gens, toutes les bêtes. J'aimerais blinder mes fenêtres, peur des changements d'atmosphère et des balles de revolver. Donnez-nous, dame nature, l'amour et la nourriture. Donnez-nous, dame nature, l'amour, l'argent, la nourriture. Donnez-nous, dame nature, bonne conscience pour nourriture. Gardez-nous, dame nature. Acheter l'agriculture toute en matière plastique pour prolonger le corps et l'âme. Pour les victimes des ravages, guerre, cyclone et chômage. Dans ma belle combinaison, pour sauver toute la planète, j'aimerais posséder l'atome, j'aimerais protéger l'ozone. Donnez-nous, dame nature, l'amour et la nourriture. Donnez-nous, dame nature, l'amour, l'argent, la nourriture. Donnez-nous, dame nature, bonne conscience pour nourriture. Gardez-nous, dame nature. L'amour, la luxure, le bois, les matières plastiques pour prolonger le corps et l'âme. Qu'on m'aime pour mon argent et pour ce que je donne aux autres. Dans ma belle combinaison, pour sauver toute la planète, j'aimerais être généreux, mais que ça coûte pas trop cher. Donnez-nous, dame nature, l'amour et la nourriture. Donnez-nous, dame nature, l'amour, l'argent, la nourriture. Donnez-nous, dame nature, bonne conscience pour nourriture. Gardez-nous, dame nature. Donnez-nous, dame nature, l'amour et la nourriture. Donnez-nous, dame nature, l'amour, l'argent, la nourriture. Gardez-nous, dame nature, bonne conscience pour nourriture. Gardez-nous, dame nature, du futur. Du futur. Du futur. Du futur. Garde-nous, dame nature.
Si Dame Nature nous garde, qui garde Dame Nature? Peut-être nos trois invités. Dame Nature, donc rue de la Muette, issue de l'album Assez de Pognon, paru en 2008. On se retrouve donc avec nos trois invités pour parler de ce nouveau collectif en cours future association de réserve de nature qui réunit donc des propriétaires volontaires, des exploitants de terrains, des naturalistes et des habitants qui souhaitent constituer un réseau de parcelles en faveur de la biodiversité dans le sud Ardèche et le nord du Gard. Nos trois invités donc, Cassie Texier, Simon Constant, naturaliste et botaniste, et Jean-François Holthoff, habitant de l'Ermitage Saint-Eugène dans le bois de Baie-Olive. Merci à tous les trois d'être autour de cette table. D'abord, ma première question, pourquoi ces réserves de nature, les entités qui existent de protection de la biodiversité, qui émanent des collectivités publiques, telles que les zones Natura 2000, parc naturel régional, etc., est-ce que tout cela n'est pas déjà suffisant ?
Alors, merci. Le constat qu'on a fait, c'est que c'est loin d'être suffisant, puisque actuellement, ce qu'on appelle les protections comme Natura 2000 sont en réalité des protections faibles, c'est le vocabulaire même de l'État, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est acté. La plupart des parcs aussi, pour tout ce qui est situé en dehors des cœurs de parcs. Donc en fait, ce sont des entités administratives qui imposent certains règlements, mais qui restent extrêmement peu contraignants. Je ne dirais pas qu'on fait ce qu'on veut dans ces entités-là, mais pour autant, on ne peut pas parler de réelle protection. Aujourd'hui, par exemple, sur le département de l'Ardèche, les protections fortes, elles sont estimées à environ 1%, 1,5% du territoire seulement. C'est-à-dire dans 98,5-99% du territoire, il n'y a pas de réelle protection. Donc le constat de base était celui-ci.
Mmh. Et donc ce constat de base, est-ce que c'est ce manque de protection qui vous a conduit à aller dans cette démarche ? Racontez-nous un petit peu le processus. Pourquoi vous avez créé ce collectif de réserves de nature ? Cassie ?
Alors moi, je suis dans ce collectif en tant que propriétaire. La particularité de notre collectif, c'est la présence des naturalistes qui peuvent transmettre de la connaissance. C'est un peu un réseau social de la biodiversité. On va pouvoir échanger des informations et avoir des comportements vertueux pour la biodiversité, ensemble.
Et faire émerger. Ce que vous dites là, c'est que c'est effectivement faire ensemble, c'est de cet échange, de cet apport mutuel, une forme de structure d'éducation populaire, c'est-à-dire comment on fait ensemble, on s'apprend les uns les autres, et on agit tous ensemble. C'est un peu l'esprit. Est-ce que c'est ça, Jean-François, que porte ce collectif de réserve de nature ?
Alors, ça peut être une dimension, effectivement, hein, de coopérer, de mutualiser des moyens, des connaissances. C'est certainement un des outils. Ce n'est pas le but en soi. Le but en soi, c'est vraiment d'avoir des espaces protégés, de protection faible, forte, ça dépend des cas, pour la biodiversité. Parce que ce qu'on s'aperçoit, pour relayer ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que les dispositifs existants de réserves naturelles, de réserves nationales, régionales ou autres, sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre, très lourds, parfois pas toujours efficaces. Donc on a plutôt pensé à ce que ça vienne des citoyens, des propriétaires de la base, qui ont le droit de mettre en protection leur propre terrain. Et justement, c'est de les aider dans cette démarche. Et l'association pourra aussi passer des conventions, des contrats avec les propriétaires, surtout pour que cette protection soit dans la durée. Mmh. Aujourd'hui, il peut très bien y avoir un propriétaire, et puis dans 5 ans, il ne sera plus là, et puis les successeurs ne seront pas intéressés. Donc l'idée, c'est d'avoir une durabilité.
Mmh. C'est ça, c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles de pérenniser ces actions. Concrètement, qu'est-ce qui va être mis en place ? Qu'est-ce qui est possible ?
Alors, il y a un dispositif juridique qui est assez récent qui permet ces protections sur le long terme, qu'on appelle l'ORE, l'obligation réelle environnementale. C'est quelque chose qui est déjà utilisé par certaines structures et qui est en train de se démocratiser et qui est lié à la parcelle et pas au propriétaire. C'est-à-dire que lorsque le propriétaire décide de vendre ou décède et sa parcelle part en succession, les obligations qu'il aura couchées sur le papier pendant une durée choisis jusqu'à 99 ans se transmettront aux futurs propriétaires. Donc par exemple, un propriétaire qui souhaite prendre des dispositions pour protéger sa garrigue, sa forêt, sa zone humide, peu importe, ça ne dépendra plus de sa propre personne, l'application sur le terrain. S'il décède, s'il disparaît, ça se transmettra. Et cet outil-là, du coup, est très puissant, permet de faire beaucoup de choses, il est aussi complexe à mettre en place, c'est pour ça que ça nécessite une structure que nous sommes en train de construire, mais ça nous paraît être une des réponses adaptées à ces problématiques temporelles.
De quelle forme vous vous inspirez? Est-ce qu'il y a d'autres réserves de nature qui existent ailleurs en France ou en Europe?
Oui, il y a d'autres, on n'est pas les premiers à avoir ces idées-là, hein. Très clairement, il y a déjà des structures qui l'ont fait depuis longtemps, pour citer l'ASPAS par exemple, avec les réserves de, les havres de vie sauvage. Par contre, nous, là où on va se démarquer, c'est qu'on intègre beaucoup plus, on intègre beaucoup plus de diversité de cas, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas simplement à un milieu donné ou à une façon de le gérer ou de le non gérer, mais ça s'adresse à absolument tout le territoire. La clé d'entrée, c'était la conservation des paysages, parce qu'en conservant les paysages, on s'assure de conserver justement ce qui les constitue, notamment la biodiversité, mais aussi certaines activités humaines, notamment des activités agricoles comme le pastoralisme. Et ça, c'est vraiment différent, et en ça, on se démarque. Je pense qu'on se démarque beaucoup des autres initiatives dont on a connaissance à l'heure actuelle.
C'est ça, c'est-à-dire que l'homme est inclus, fait partie de la nature, et ses activités aussi. Il n'y a pas de séparation, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord autour de cette table, mais il n'y a pas de séparation entre d'un côté la nature et d'autre côté l'homme. C'est vraiment la biodiversité, l'humain et les activités humaines faisant partie de la biodiversité. C'est bien ça?
À condition qu'elles soient vertueuses, bien sûr, pour la biodiversité. Mais on peut tous agir, chacun à un niveau peut-être différent, que ce soit dans un jardin privé, que ce soit les agriculteurs, ou dans un bois, propriétaire de bois, avec soit la libre évolution, soit une exploitation positive.
Vous vouliez rajouter ?
Oui, on fait pas de fracture entre une nature où l'être humain serait absent et des endroits où l'être humain serait présent, et du coup on considère que ça n'a pas de valeur. Parce que c'est quand même quelque chose qui est assez admis de manière un peu sous-jacente par beaucoup de personnes, mais en fait, en réalité, c'est un continuum qui est beaucoup plus complexe que ça, et c'est pas parce que l'être humain est présent ou entreprendre des activités, alors notamment agricoles, qu'il n'y a pas de biodiversité, qu'il n'y a pas d'intérêt à faire des choses de la meilleure des façons. Donc ça, c'est très important, et effectivement, comme dit Cassie, on tient beaucoup à ce concept. Pour autant, ça ne veut pas dire mettre des zones commerciales partout. C'est pas ça qu'on entend quand on parle d'activité humaine. On entend surtout l'activité agricole raisonnée, mesurée, j'ai envie de dire traditionnelle, même si c'est un peu connoté, mais en tout cas extensive. C'est un sujet d'actualité, mais c'est tout à fait inclus dans notre raisonnement.
Vous parliez de la diversité, vous parliez de jardins, vous parliez de forêts, de zones agricoles également. Tout propriétaire, tout exploitant peut rejoindre ce collectif, et est-ce déjà le cas ? Là, vous avez eu l'assemblée constitutive donc ce samedi. Donc ça, c'est tout frais. Est-ce que vous étiez nombreux ? Est-ce que des gens, de manière inattendue, sont venus à votre rencontre ?
Il y avait une quarantaine de personnes environ. Donc la plupart étaient propriétaires, petits ou grands. Il y en avait qu'un qui avait 100 hectares, l'autre 4, par exemple. Je pense que c'est très varié comme... Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont hérité, par exemple, de parcelles dont ils ne voient pas très bien quoi en faire, ou des résidences secondaires, autour de résidences secondaires, par exemple, et ils souhaiteraient effectivement pérenniser une certaine protection. Donc ça, c'est le profil qui correspond bien à notre démarche. Après, il y a d'autres cas, il y a aussi des exploitants. On avait un apiculteur qui a des terrains sur les gras, il y avait d'autres...
Des bergers
aussi. Alors les bergers ne sont pas propriétaires, mais ils ont un rôle important dans le maintien de la biodiversité. c'était assez varié, je pense, même s'il y a encore eu beaucoup de profils à intégrer. On peut... Je pense que ce qu'on lance, c'est quelque chose de très nouveau, en fait. Hein. Mmh. Même s'il y a des fondations ou des associations, par exemple, qui récoltent des fonds pour acheter des terrains, ça, on pourra le faire aussi, bien sûr. Mmh. Mais là, ce groupement qu'on veut faire, je crois que c'est vraiment assez nouveau, et donc ça va prendre quelques temps avant de se préciser suffisamment.
Mmh. Vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure, Conte.
En tant que propriétaire, si on a envie de s'engager pour la biodiversité, voilà, ça, plus on sera nombreux pour constituer cette mosaïque de parcelles, plus ça aura d'efficacité en fait. Mmh.
D'étendre effectivement le champ de la protection.
Mmh. Et de viser, oui, on l'a déjà dit, mais tout propriétaire est concerné, quelle que soit la nature du lieu de sa parcelle. Ça peut être un bord de rivière, une forêt, une garrigue, une lande montagnarde, une zone humide. Tout le monde a intérêt à protéger ses milieux. Mmh. Voilà, ça, c'est un message qu'on voulait faire passer aussi.
Tout à l'heure, on évoquait le continuum entre les activités humaines et la biodiversité. Jusqu'où, vous, Cassie, vous disiez que y a une limitation à avoir. Hein, il faut que les activités et que les actions soient vertueuses. Vous allez pratiquement, vous allez rédiger des actions, des limites pour établir clairement un règlement. C'est ce qui est en cours.
Oui, on est en train, parallèlement au statut de l'association, on est en train de rédiger une charte ou un manifeste d'engagement. C'est plus, ça, il y a deux orientations. D'un côté, il y a un aspect un peu philosophique à s'engager, à ne pas nuire à la biodiversité. Et d'un autre côté, il y aura quelque chose de plus pratique, où là, ça commencera par des conseils. Un truc tout bête, mais comme on parlait des jardins, bah, c'est par exemple limiter l'introduction de plantes exotiques, notamment exotiques envahissantes, ou adapter sa tonte pour qu'elle soit, on va dire, modérée. Ça part de conseils comme ça, pour notamment les espaces très anthropisés. Et à terme, on espère pouvoir éditer des petits guides représentatifs de la diversité des biotopes du sud de l'Ardèche et du nord du Gard, pour que les gens puissent s'y retrouver. Une des clés d'entrée, c'était, comme j'ai dit, les paysages et la géologie, c'est-à-dire qu'on est dans un pays localement extrêmement diversifié, que chaque grand type de paysage a ses propres problématiques. Et on aimerait apporter, pour chaque type de paysage, quelques réponses aux gens qui se questionnent sur qu'est-ce que je peux faire dans mon terrain sans le détruire, ou qu'est-ce que je peux ne pas faire, voilà. Ça serait un petit peu un guide de conduite volontaire, évidemment, mais un petit guide de conduite.
Mmh. Cassie, qu'est-ce que ce collectif vous apporte ?
Ça fait un an que je suis dans ce collectif, j'ai énormément appris. J'ai un projet de jardin-forêt et grâce à Simon, je sais maintenant, on est en train de reconstruire un biotope favorable à la biodiversité dans mon jardin-forêt. Je sais que je dois limiter effectivement les espèces exogènes et plutôt aller dans le local, quoi, rechercher des essences locales pour reconstruire ce biotope favorable à nos insectes locaux et à la biodiversité locale.
Comment ce collectif peut s'articuler avec, on parlait tout à l'heure, avec les zones de protection existantes portées par les collectivités publiques ou locales, publiques. Est-ce qu'il y a des articulations qui vont être prévues ou pas ?
C'est difficile de le dire aujourd'hui parce que d'abord qu'on existe, qu'on rassemble, je pense, un certain nombre d'hectares. Hein. Actuellement, on a un peu plus de 100 hectares, un peu plus de 200 peut-être. Mais le jour où il y aura vraiment une protection réelle sur une surface importante, les autorités ou les collectivités seront intéressées. D'ailleurs, il existait jusqu'à une quinzaine d'années un dispositif qui s'appelait les réserves libres, réserves volontaires. C'est-à-dire que chaque propriétaire pouvait faire un peu ce qu'on veut faire, et c'était la préfecture qui validait en quelque sorte, et qui disait là c'est protégé. Et c'est devenu des réserves régionales, mais les régions, il y a une bureaucratie. On a essayé par exemple de faire une réserve régionale sur un secteur, mais il y a une telle bureaucratie que c'est pas possible, on n'y arrive pas. Donc là voilà, Dixidrac, on essaye de... Ça dépasse ce qu'il y avait autrefois, mais ça le réactive un petit peu, quoi. Ça le fait renaître, oui. Mmh. Réserve volontaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout à attendre des décisions publiques. On peut prendre en main parce qu'il est urgent. Si on attend les décisions publiques, il restera plus grand-chose bientôt.
Simon.
On s'est fixé du coup des limites géographiques quand même, parce que on est basé dans le sud d'Ardèche et on peut pas intervenir partout. On a des connaissances plus sur le sud d'Ardèche, donc pour les fixer grosso modo, actuellement c'est la limite sud, c'est la 16 pour faire simple. La limite est, c'est la vallée du Rhône. La limite ouest, on va dire que c'est plus ou moins la Lozère. Et sur le nord, c'est le bassin de l'Ardèche. Voilà. Pour le moment, c'est dans ce grand périmètre, ça fait déjà quand même pas mal de kilomètres carrés, hein, qu'on aimerait lancer ce projet. Mais à terme, bon, bah, peut-être que si ça fera des émules, ça grandira, ou ça fera des petits ailleurs, ça, on le verra. Mais pour le moment, voilà, c'est grosso modo cette région-là que l'on vise.
Toutes les informations, de toute façon, vous pouvez les trouver sur le site, soit le site de Paillolive, de l'association Paillolive. Vous tapez Paillolive réserve de nature et vous allez tomber sur une page ou sur le petit livret explicatif où on explique toute la démarche avec les contacts pour entrer en contact avec vous, que ce soit l'association Paillolive ou le collectif. En vous écoutant et en regardant justement cette petite vidéo qui est disponible aussi, il y a une petite vidéo de présentation de ces réserves de nature qui est disponible sur le site internet, ça résonnait avec des questions dont on a déjà débattu ici, sur notamment avec un auteur, Jean-Marc Guitti, où l'amour, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure dans l'introduction, où l'amour d'un lieu, c'est vraiment l'amour d'un lieu qui fait qu'on va préserver ce lieu. Et en lisant les témoignages de plusieurs propriétaires ou plusieurs habitants qui sont rentrés au début de ce collectif, c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux. C'est cette envie, alors je reprends par exemple des mots de Carole Coache, elle dit « Ces terrains sont une pure merveille, ils ont une grande importance affective pour moi. J'y passe régulièrement des heures de promenade, de méditation et de découverte. J'ai le souhait de créer des espaces de partage dans ces lieux qui auraient pour objectif de sensibiliser à ces lieux magiques. J'ai l'impression que cet amour, cet affectif, c'est vraiment l'un des moteurs de protection de la nature. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne en vous ?
Pour moi, c'est primordial, c'est extrêmement important, et je pense qu'on aime mieux ce qu'on connaît. Et la particularité de ce projet, c'est justement d'avoir la connaissance des naturalistes qui nous amène à connaître notre environnement, pour mieux le protéger, pour mieux l'aimer.
Je pense que sur tous les terrains que possèdent les propriétaires qui peuvent être concernés, il y a des milliers de choses à découvrir. Et quand on prend le temps de les regarder, de se baisser, de s'asseoir par terre, de regarder les petites plantes, les insectes, ou d'écouter les oiseaux, c'est difficile de ne pas en tomber amoureux. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est gagné. C'est-à-dire que on n'imagine pas quelqu'un qui aime réellement son terrain le vendre pour déposer des déblais, comme ça peut être le cas à certains endroits, le vendre pour un projet industriel ou quoi que ce soit d'autre. Même si ça rapporte de l'argent, ce qu'on espère, c'est que l'affectif l'emportera.
Un dernier mot, Jean-François ?
Oui, je souscris tout à fait. Pour vivre dans le bois de Paillolive, je pense que je ne peux que souscrire à cela. Pour reconnaître le terrain de Carole Coache, là, que vous avez signalé, je pense qu'il y a des promeneurs qui y passent sans se rendre compte qu'il est merveilleux. C'est une chênaie verte. Alors moi, je l'apprécie beaucoup parce que je connais l'ensemble. Mais je pense qu'il faut connaître un peu pour vraiment apprécier aussi.
C'est ce que vous disiez, Cassie, et ça nous emmène loin. C'est très juste. Apprendre à connaître pour l'aimer. Merci beaucoup tous les trois. Donc je rappelle la naissance de ce collectif qui va devenir une association réserve de nature donc en Sud-Ardèche et dans le nord du Gard. Donc vous aurez toutes les informations sur le site internet de l'association Paillolive, réserve de nature, vous trouverez toutes les infos. Et sur la chaîne, vous pouvez, voilà, et sur la chaîne YouTube, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Réserve de Nature,
je pense. On a créé une chaîne YouTube Réserve de Nature Ardèche-Gard et une page Facebook aussi.
Voilà, toutes les informations. Merci beaucoup à tous les trois. Restez à l'écoute de Fréquence 7, puisque vous y trouverez bien sûr la meilleure de la musique, mais aussi à 13h, Drôle de Dame. À 15h, le Telex, donc vos annonces au 04 75 93 30 25. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, Polymix et la voix off. À 21h, Metal Zone. Un petit mot sur le programme de Metal Zone, Sylvain ?
Alors, du gros métal, et puis on aura en guest Fabrice, un pote.
Avec de très longs morceaux, ça change. Merci beaucoup et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Nous on se retrouve jeudi prochain pour, après-demain, dans la prochaine Onde Curieuse pour discuter d'un autre projet collectif. Comment on crée ensemble un projet artistique avec l'éclat et donc la compagnie Hieraz qui sera vendredi et samedi. Qui sera samedi au Quinconce de Vals-les-Bains. On en parle donc jeudi. À jeudi.